cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Pregando e piangendo io mi consumi. Rendetemi il mio ben, rendetemi il mio ben, rendetemi il mio ben.
Bonjour Étienne Collard.
Bonjour.
Alors Étienne Collard, depuis plus de 3 décennies, vous êtes producteur, ingénieur du son, vous enregistrez, on va dire, les acteurs majeurs de la sphère classique. Je vais pas tout citer, mais quelques noms comme ça, ça va de Roberto Alagna, Rando Villazón, Nathalie Dessay, Michel Plasson, les frères Capuçon, Michel Legrand, Le Quatuor Ebène, Barbara Hendrix, etc., 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 pour des labels divers et variés, dans des lieux et des salles prestigieux. Vous êtes vous-même de musicien de formation, ce qui peut aider en général quand on rencontre des musiciens, qu'on communique avec eux et surtout qu'on travaille avec eux, puisque vous êtes un peu le passeur entre la partition, le musicien et l'auditeur. Comment on devient producteur, ingénieur du son quand au début on commence à s'engager dans une carrière musicale? Est-ce que vous aviez déjà une sensibilité à toutes ces problématiques de son, sensibilité que peuvent avoir évidemment chaque musicien, mais est-ce que vous étiez particulièrement attaché à la prise de son quand vous étiez jeune, étudiant?
Alors pour tout vous dire, je fais partie d'une famille de, ouais, de musiciens. Depuis 4 générations, c'est-à-dire que du temps de mes grands-parents, arrière-grands-parents, c'était des musiciens amateurs, mais ils se réunissaient tous les dimanches après-midi et ils sortaient des quatuors de Brahms et Roule ma poule, on déchiffrait, on faisait de la musique, quoi, entre la messe et les vêpres, hein, c'était vraiment...
C'était dans votre ADN, donc depuis toujours.
Oui, tout à fait. Alors, et après, quand j'étais petit, j'ai toujours été, en fait, très attiré par l'objet disque. Moi, ça m'a toujours fasciné de mettre un disque sur un tour de disque à l'époque, ça me fascinait. Puis après,
vous vous souvenez d'ailleurs, les tout premiers, parce que c'est vrai qu'en général, quand les tout premiers disques, on le met en boucle, on le repasse indéfiniment, 150 000 fois, jusqu'à l'user.
Oui, oui.
Quels étaient ceux ou ces
deux,
tout premiers?
Oui, les deux, je me souviens très bien, c'était le Tchaïkovski par Van Cliburn, qui avait gagné le concours de Moscou à l'époque, ça devait être en 63, quelque chose comme ça, donc j'avais 5 ans. Et le deuxième de Brahms par Richter et Eric Leinsdorf, Chicago.
Donc ça, c'était les deux.
Ça, c'est les deux. Je les ai toujours à la maison. Toujours à la maison. Je les ai rapportés de chez mes parents à l'occasion. Là, je les ai toujours à la maison. Je pense que c'est à peu près inaudible maintenant, parce que je les ai rachetés évidemment en CD. Donc voilà, c'est toujours ça. Ensuite,
vous étudiez le piano.
J'ai fait du piano, beaucoup moins bien que mon grand frère. je peux pas vous le cacher. Vous le savez. Vous le devinez en tout cas. Et puis j'ai pris la fibre de la direction d'orchestre. Donc ce qui fait que, parce que mon papa était chef de chœur, et tous les ans il montait une œuvre avec ses 3 chorales champenoises. Il réunissait tout le monde pour 4 concerts. Alors bon, j'ai aussi assisté à tout ça et ça m'a mis la fibre. La fibre de la direction d'orchestre, quoi, en fait, en gros. Donc j'ai fait, en fait, au départ, j'ai commencé les deux choses en parallèle. Parce que j'ai été quand même chef d'orchestre pendant 15 ans. Jusqu'au moment où la vie d'un chef d'orchestre, ça me passionnait pas beaucoup. J'avais déjà des enfants, des petits-enfants à l'époque. Fallait partir à l'étranger parce que nul n'est prophète en son pays. C'est bien connu, surtout en France. Et donc, j'ai mené les deux choses en parallèle. Et mon frère enregistrait beaucoup à cette époque, dans les années 70, fin 70. Donc, dès que j'avais des vacances à Pâques, à février, etc., je débarquais Salvagram, moi. J'étais Mes parents avaient un appartement à Paris, donc c'était facile. J'habitais à 1h30 de train, où je venais pour la journée, quoi. Donc les gens de la Salvagram, d'Emmy, m'appelaient. Ils me disaient, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Si ça t'intéresse, il y a Rigouteau qui enregistre, il y a Daniel Laval, il y a tous les... Ils faisaient beaucoup de piano à l'époque, quand même. Michel Béroff, tout ça. Donc j'ai assisté à beaucoup de séances d'enregistrement. Donc j'ai vu aussi le métier avant de le pratiquer. Je l'ai vu de mes yeux.
Est-ce qu'il y a un moment où ça a basculé justement entre juste d'être simple, vous regardiez effectivement comment ça se passait et mettre le doigt dans l'engrenage et commencer
à... Ah bah oui, parce que comme ils ont vu que j'étais vraiment accroché, Eric MacLeod, tout ça, Paul Vavasseur, il y avait quand même Serge Rémy qui était ingénieur du son aussi. Ils ont bien vu que j'étais passionné par ça. Donc après, ça a été des stages pendant les vacances. Et puis après, il y avait en fait quelqu'un qui s'occupait que des montages et qui est parti à Bay Road à Londres. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont demandé si ça m'intéressait de reprendre tout ce qui était montage classique. Donc à partir de 82, j'ai commencé à faire du montage et puis quelques directions artistiques comme ça de loin en loin. Mmh. Et en 87, j'ai pris donc quand Eric MacLeod est parti à la retraite, j'ai donc pris la suite de tous les enregistrements classiques français émis.
Quand vous avez commencé, donc c'était au début du CD finalement à peu près, c'était au début des années 80.
Oui, oui.
Vous êtes cette vie-là est née en même temps que la vie du CD. Vous aviez une vision, des idées très précises par rapport à l'enregistrement, au son, historiquement ce qui avait été fait jusqu'ici, les sons spécifiques à certains grands labels ou à certains ingénieurs du son, à certaines façons d'enregistrer. Ou finalement vous avez appris sur le tas, vous avez un peu tout testé. Quelle était votre vision à ce début de carrière?
En fait, j'ai pratiquement pas connu l'enregistrement sur bande, mmh. sauf pour les opéras, on enregistrait encore. Il me semble bien quand on enregistrait en multipiste au départ, on utilisait encore les machines 12 pistes, 24 pistes, les gros magnétophones, etc. Mais j'ai commencé le montage sur les premiers bancs Sony, quoi. C'est vrai, c'est vraiment. Et il y avait une grosse discussion avec les artistes et particulièrement les instrumentistes à cordes qui n'étaient pas vraiment satisfaits en 81-82 de ce qu'ils entendaient sortir des magnétoscopes Sony. Hein. Ils étaient vraiment pas satisfaits. Alors après, y avait évidemment le son Abbey Road, le fameux son Abbey Road, que personnellement, maintenant, je trouve un tout petit peu... Je suis retourné à Abbey Road, je n'étais pas allé depuis 10 ans. Et personnellement, maintenant, je trouve ça un tout petit peu daté et caricaturé, hein. Parce que c'est tellement diffus. Le studio, je ne devrais pas dire ça, parce que quelqu'un va certainement l'entendre. Mais c'est très difficile d'avoir un son vraiment précis à Abbey Road. Donc, le son typique d'Emmy, pour moi, c'était Abbey Road. Après, j'ai jamais compris la fascination chez Decca, parce que tous les grands disques que je connais, toutes les disques de Radouloupou, par exemple, c'est complètement raté. Mmh. Les disques d'orchestre, c'est à peu près. Hein. Ils ont fait une grande légende avec leur fameux arbre à trois micros, là. Que j'ai utilisé d'ailleurs à Abbey Road il y a un an et demi pour enregistrer David Frey, un concerto de Mozart. Donc c'était un peu ça. Après moi j'ai essayé de maintenir. Puis il y avait le son de la Salvagram aussi quand même, parce que ça c'est mythique. Ça c'était un endroit mythique. Je me souviens de la Salvagram. Moi je venais le matin. Ça sentait le petit pain au chocolat parce qu'il y avait une boulangerie qui était juste à côté dont les cuisines donnaient sur la Salvagram. Ou ça sentait la cigarette parce qu'il y avait un gala de boxe la veille.
Un mélange cigarette pain au chocolat.
Ouais, ouais. Et la Salvagram, les planchers qui craquent, c'était quand même assez mythique. Puis il se passait des millions de choses, quoi. C'était vraiment la maison où on enregistrait. Hein.
Est-ce que c'était finalement, rétrospectivement, un avantage ou un inconvénient d'avoir une formation un peu atypique sur le tas? Vous n'avez pas fait une grande école, j'ai l'air du son au début, dès le début, etc. Non. Donc, contrairement à d'autres confrères, vous avez abordé toutes ces problématiques différemment. Quand vous regardez rétrospectivement, est-ce que, par exemple, au début, en vous lançant là-dedans, vous expérimentiez, vous testiez des façons, des techniques d'enregistrement, des positionnements de micro, etc. Comment ça se passait?
En fait, moi, j'ai toujours travaillé à deux. En fait, pratiquement, enfin, je fais quelques enregistrements tout seul. Quand c'est du piano, ça, je sais quand même faire bien, je pense. Mais je préfère, pour tout vous dire, je préfère travailler en binôme. Parce que je trouve que la relation avec l'artiste n'est pas du tout la même. Et qu'on a besoin d'avoir... l'artiste aussi a besoin d'avoir deux personnes en cabine vers lesquelles il peut éventuellement se tourner pour... Parce que Dieu sait s'il y a un endroit où on doute, c'est quand on enregistre. Pour un artiste, c'est vraiment... Et je crois qu'il n'y a rien de pire. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc j'ai beaucoup observé la manière de placer les micros. Je peux faire des enregistrements d'orchestre. Je sais exactement quel micro on place à tel endroit. Mais jusqu'à présent, alors peut-être qu'économiquement dans l'avenir je pourrais plus l'imposer, mais jusqu'à présent j'ai toujours pu imposer de travailler avec des ingénieurs du son généralement fidèles. Je travaille avec deux ou trois. Je travaille principalement avec Michel Pierre, avec Frédéric Briand qui est vraiment jeune. Formidable, très psychologue, et Michel aussi est fantastique avec les musiciens. Et puis de loin en loin, depuis peu, j'ai aussi une collaboration intéressante avec Jean-Marc Lenné, qui lui était habitué à travailler seul, et qui a ressenti. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, j'aimerais bien travailler avec toi, etc. Et donc, on est arrivé à travailler ensemble aussi sur deux ou trois projets. Et je pense que dans l'avenir, on va essayer de collaborer aussi. Mais voilà.
Vous avez prononcé le mot psychologue. Quand on est comme ça au contact de musiciens, d'artistes, donc des personnalités très très différentes, justement ce rôle-là, on doit se retrouver parfois avec des solistes qui ont vraiment des visions très 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 précises. Donc j'imagine qu'il faut la partie de communication de psychologique, voire peut-être de psy, je sais pas, avec le musicien, et doit être essentiel. Non, parce que vous dites d'ailleurs sur votre site internet, vous mettez en avant, vous dites pour tous les musiciens, effectuer la démarche d'enregistrer, de se réécouter ensuite est toujours un des meilleurs moyens de se connaître, de se mesurer, donc de progresser. Donc comment vous avez quelle était votre vision justement de cet aspect psychologique quand vous êtes engagé dans cette carrière, et comment il a évolué?
Je l'ai expérimenté sur les orchestres quand j'étais chef d'orchestre, parce que il y a beaucoup de points communs, et je me sers beaucoup de mon expérience de chef d'orchestre pour conduire des séances d'enregistrement, c'est-à-dire pour guider les artistes. Il y a beaucoup, beaucoup de points communs. La façon d'expliquer les choses, de dire les choses, ou de ne pas dire, de ne pas intervenir, de laisser faire les choses à certains moments, de laisser l'artiste rejouer une prise sans forcément faire de commentaires entre les deux prises. Ou de le faire venir en cabine pour écouter, même s'il ne veut pas, parce que c'est essentiel de s'écouter. Moi, ça, j'ai appris ça avec Michel Plasson, avec qui j'ai fait 50 disques, peut-être. Je ne sais pas compter, mais quand même pas mal de choses, puis plein d'opéras. Enfin, c'était une période fascinante. Et Michel, même si on avait 20 minutes de musique à enregistrer en trois quarts d'heure, il faisait une prise et il venait écouter. Alors, il n'écoutait pas tout. Il écoutait certains endroits pour être sûr de son tempo. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas vivre sans écouter dans un opéra, même si la séance, on risquait de pas finir la séance. C'était un devoir chez lui et un besoin d'écouter. Donc pour en revenir à l'aspect psychologique, c'est beaucoup de points communs entre la façon de la pédagogie d'un chef d'orchestre et la pédagogie d'un directeur artistique sur une séance. Il y a beaucoup de choses qui sont communes.
Piendi barbaro fuga. La faccia di me c'era spirito e l'andio tornero. Piendi barbaro fuga. Piendi barbaro fuga. Andio tornero, tornero. Spirito e l'andio tornero. Piendi barbaro fuga. Contro Olimpia,
avez eu des échanges houleux parfois, ou des, j'imagine, avec des personnalités qui avaient vraiment une vision très précise de ce qu'elles voulaient, et vous, en leur proposant peut-être autre chose, en leur disant que c'est peut-être.
Oui, oui, mais moi, je suis pas, moi, j'ai pas d'ego, alors, j'essaye de pas en avoir, en tout cas, en cabine. J'ai des idées très précises. Grosso modo, quand je m'emmerde pendant une prise, je le dis, c'est tout. Je le dis pas comme ça. Mais généralement, je le dis. Et quand l'artiste me dit, écoute, c'est ma conception, évidemment, j'accepte totalement. C'est lui qui met son nom sur le disque, hein, c'est pas moi. Donc, il y a eu des échanges houleux, mais c'est parfois aussi la nervosité. Et puis, quand on voit que vraiment l'artiste est tout à fait sûr de parce qu'il y a aussi un problème, c'est que quand on expérimente une œuvre en concert et qu'on la grave sur un disque après, l'écoute n'est pas du tout la même pour l'auditeur qui est dans la salle et le même auditeur qui va se trouver dans son salon et réécouter la même chose une heure après. Et c'est pas forcément les mêmes parties pris de tempi, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de problèmes qui. Alors, j'essaye d'attirer l'attention des artistes quand ils prennent parfois un tempo trop lent et que. Alors, parfois, c'est très beau, c'est très assumé. Quand on a fait la sonate en sol majeur de Schubert avec Penthier, il prend un tempo absolument incroyablement lent, mais c'est pas du tout ennuyeux, parce que c'est tout est habité, les silences, les transitions, les choses comme ça. Mais parfois, il arrive que ce soit un peu un parti pris de lenteur et qui finalement au disque ne tient pas parce que moi, si je m'endors dans mon canapé, je le dis. Voilà, c'est tout. Si je risque de m'endormir.
Est-ce qu'il y a des enregistrements que vous avez effectués qui vous ont fait grandir d'une certaine manière plus que d'autres rétrospectivement quand vous les voyez, qui ont vraiment été des étapes importantes? Le fait justement d'avoir été, pas vraiment formé, mais d'avoir été lancé un peu dans la fosse aux lions directement. Où on apprend finalement en travaillant. Est-ce qu'il y a un album, une séance, quelque chose, vous avez, en réécoutant un disque, vous avez senti que vous avez vraiment passé un palier?
L'expérience, la plus grande expérience pour moi, ça a été la collaboration avec Michel Plasson. Ça, c'est vraiment et ça, je remercie beaucoup Alain Lanceron de m'avoir fait confiance dès le début. Parce que c'était pas facile d'arriver tout jeune chef d'orchestre, tout jeune pardon directeur artistique sur le métier et de devoir diriger des séances avec un grand orchestre et un chef déjà prestigieux, etc. Donc ça c'est quand même une expérience qui m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup appris parce que Michel il a une science de l'enregistrement. C'est grâce à ça d'ailleurs et j'ai réécouté tous les enregistrements, mais j'ai réécouté certains qui ont été réédités en coffret, un très beau coffret qui est reparu l'année dernière. Et en fait, j'avais pas réécouté depuis parce que généralement, quand je fais un disque, je l'oublie un petit peu parce que sinon, je sais trop ce qu'on a fait pour le rendre parfait. Donc, j'ai toujours ça en tête. Généralement, j'attends 5 ou 6 ans pour les réécouter. Dans le cas de Michel, on en a tellement fait qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a oubliées et c'est très intéressant de réécouter ça a posteriori.
Et j'imagine qu'en plus, le fait de pouvoir travailler sur la durée, en termes de collaboration, de complicité,
ben oui.
Ça permet de travailler de manière encore plus, plus intéressante.
Plus intéressante. Là, avec Nathalie Dessay, on était très, très, très contents de se retrouver, par exemple. Parce que j'ai fait son premier disque en 91, quand même. Je crois que c'était 91 ou 92, à Lyon, avec Gauchel Bauer, premier album Mozart. Et puis, dans Loin en Loin, on ne s'est jamais quitté. Je n'ai pas fait tous ces enregistrements. J'ai dû sur tous les enregistrements, peut-être louper 4 fois la collaboration, parce qu'une fois c'était à Londres, une fois c'était des conditions un peu différentes. Mais enfin, tous ces albums marquants de récital, on les a fait ensemble. Donc, et on retrouve, finalement, on n'avait pas travaillé depuis 4 ans ensemble, là, et on s'est retrouvés, on a retrouvé nos marques, quoi. C'est-à-dire établir une confiance avec un artiste, parce que tout repose sur la confiance, en fait. Ce métier de directeur artistique, c'est d'établir une confiance en béton armé, parce que l'artiste doute tellement et se demande tellement pourquoi il enregistre, parce que vous savez comme moi que dès qu'on passe la porte d'un studio, qu'on a fini un enregistrement, on a envie de le refaire. Évidemment, 8 jours après, on ne le fera pas de la même façon. Donc il faut établir une confiance. Donc Nathalie, elle sait exactement qu'elle peut me faire confiance. C'est pas de l'immodestie de dire ça, elle le dit. Donc je pense qu'elle me démentira pas parce que je connais les sons qu'elle produit et je connais aussi les sons qu'elle n'aime pas. Donc le type de son qu'elle n'aime pas. Donc généralement voilà.
C'est important pour vous d'agir à 360 degrés, c'est-à-dire de faire aussi bien de la musique baroque que contemporaine, de faire aussi bien Pentier dans Forêt que Petit Gérard dans Elephant Man, etc.
C'est essentiel pour moi. Je pourrais pas vivre sans enregistrer du baroque où j'ai eu une collaboration aussi très intéressante avec Dominique Vélard, Gérard Laine, tout ça. J'adorais. Et j'ai envie de faire ça. Alors je sais que beaucoup de directeurs artistiques sont spécialisés. Mais moi, en tant que chef d'orchestre, j'ai dirigé beaucoup, beaucoup de musiques différentes. Donc j'ai absolument aucun problème de lecture, de partition. Une partition comme Elephant Man, qui fait presque un mètre de haut, quand même. C'est Gourou, le dernier opéra qu'on a enregistré avec Laurent. C'est mon expérience de chef d'orchestre qui parle là. Parce que en plus, c'est comme c'était la première fois qu'il était joué, il y avait quand même des fautes dans le matériel d'orchestre où ça commençait. C'est quand même un opéra de 2 heures et avec je sais pas combien de parties d'instruments, il y avait forcément des fautes qui sont passées à travers.
Comment évoluait votre vision de la prise de son, de l'enregistrement depuis le début des années 80, avec les évolutions technologiques, avec même votre propre... Oui, j'allais dire, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des choses que vous avez écoutées qui étaient datées, qui font dater, etc. L'oreille subit des agressions tous les jours, des contacts, on a ces petites idées, il y a des modes, il y a plein de choses comme ça. Si vous regardez rétrospectivement depuis ces 3 décennies, quelle est votre vision de cette évolution personnelle?
En fait, il y a eu toute une période où on s'est mis à mettre plein de micros partout. et en fait, c'était un tout petit peu... on est un peu tombé dans ce travers-là. En tout cas, moi, je suis tombé un peu dans ce travers-là. Mais c'est la période aussi où on a commencé à... En fait, quand la Halle au Grain à Toulouse a été rénovée, c'était plus le son d'avant, quoi. Donc je me souviens des premières séances, et ça n'allait pas du tout, parce que c'est maintenant ils ont un petit peu arrangé les choses, et donc on cherchait les trucs. Alors, au départ on travaillait en 2 pistes directes, vraiment un ingénieur du son, Daniel Michel, qui était très très rompu à ce genre de sport, parce que voilà... Et puis, petit à petit, avec le problème de la salle, et il n'y avait pas de plan sonore, il fallait absolument recréer des plans un peu artificiellement en mixage après. On s'est mis quand même à mettre des micros partout. Et puis, en fait, avec le temps, je me rends compte que quand on est dans une acoustique, évidemment, appréciable et qui donne une couleur... généralement, comme on voit, on pose des micros d'ambiance, on voit déjà comment ça sonne. Ensuite, on pose un micro général, on voit comment ça sonne. Et puis, on rajoute 1 ou 2 appoints. Je parle pour l'orchestre. Je parle pour l'orchestre parce que, évidemment, musique de chambre, on multiplie pas les micros.
Mais est-ce que votre oui, personnellement, vous pensez qu'elle a changé, elle a évolué en 30 ans? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous aimiez, que vous n'aimiez pas et qui ont aujourd'hui qui sont différentes quand vous les réécoutez rétrospectivement, comme vous l'avez dit, j'imagine que vous ne passez pas vos journées à réécouter tous vos albums non. régulièrement, même ceux qui ont été faits dans les années 80 puis 90, etc. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a effectivement des choses? Et même à la rigueur, de l'autre côté, la question, ça pourrait être, est-ce que vous avez l'impression que les exigences de ce qu'on pourrait appeler vos clients, les musiciens, ont elles aussi changé, évolué au fil des années?
Oui, les musiciens sont devenus, particulièrement la jeune génération est devenue assez... exigeante, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ont tellement écouté de musique qu'ils savent le son qu'ils veulent entendre, ou en tout cas le type d'acoustique qui pourrait convenir pour faire... Donc ça, c'est tout un travail où... on a une discussion en amont sur le... Voilà, j'étais avec David Frey au téléphone hier et on parlait du prochain disque qui sera probablement un disque back. Et donc, il veut absolument enregistrer ça dans une acoustique généreuse. Donc on a parlé de deux, trois endroits pour le faire l'année prochaine. Voilà. Aussi, bon, la technique des microphones a considérablement évolué. Parce que même les
j'allais dire, est-ce que vos armes, est-ce que vous, votre kit de survie a évolué pendant ces 30 ans?
Ah bah oui bien sûr, considérablement. Non, la technique des micros, c'est hallucinant. C'est sûr que quand on voit l'évolution chez Neumann ou chez Schoepps et tout ça, qui sont principalement les marques que je préfère. Je ne citerai pas les autres, mais généralement, parce que j'ai des goûts bien précis, et puis c'est quand même ceux qui ont les capacités de recherche, développement les plus poussées, etc. Donc ça a fait énormément de progrès. Et puis le fait que les artistes aussi écoutent beaucoup d'enregistrements. La jeune génération, moi j'ai un fils qui est pianiste, qui est encore dans les études, mais il passe son temps sur Deezer et tout ça pour écouter les sons de Schnabel et tout ça, de Richter, et voilà, il écoute énormément, on en parle ensemble, c'est assez amusant parce que il s'est forgé un goût d'écouter non seulement du son des pianistes, mais de l'enregistrement, du rendu sonore de l'enregistrement.
Comment vous vivez la dématérialisation de la musique, ou majoritairement, alors pas sur Cobuzz, puisqu'on fait attention à ce que la restitution du son soit aussi bonne que le CD, voire supérieure quand on propose des studio masters, mais que la majorité effectivement des gens qui vont écouter les enregistrements que vous faites vont l'écouter en MP3 ou donc avec des dynamiques complètement décapitées, pourrait presque dire. Est-ce que justement même vous avez l'impression par rapport à différents interlocuteurs, que ça soit au niveau des maisons de disques, au niveau des radios, etc., il y a aussi un chamboulement là-dedans? Comment vous vivez?
C'est un peu malheureux, mais enfin il faut vivre avec son temps et puis se dire que il y a une partie des gens quand même qui, en tout cas des mélomanes qui sont avertis justement. Je pense que si le classique a souffert évidemment, mais certainement quand même moins que la variété, parce qu'il y a quand même toujours un rapport à l'objet. Donc on achète un disque classique, et on en reparlera peut-être plus tard, mais on achète un disque classique aussi pour l'objet, pour la possession de l'objet, etc. Mais le fait est que maintenant les plateformes sont absolument incontournables, qu'on balance du MP3, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, hein, on ne peut pas... Alors des initiatives évidemment comme vous en avez là, c'est assez formidable parce que... Quand la technologie va vraiment suivre et va se mettre au niveau du grand public, là, le fait de proposer quand même un format au moins équivalent, sinon supérieur au CD, va quand même apporter un plus. Mais pour l'instant, il faut que les gens s'équipent, ça reste quand même des choses onéreuses. Hein. C'est pas encore vraiment tombé dans le grand public tout ça, et puis mais c'est un, on peut pas je veux dire, on peut pas faire on peut, on, il faut faire avec il faut faire avec malheureusement.
Vous nous parliez tout à l'heure de vos deux vinyles que vous avez usés. Comment s'est passée justement l'évolution du rapport avec la musique, avec les enregistrements, les albums? Est-ce que vous étiez une sorte d'acheteur compulsif? Est-ce que c'était un discophile
Oui, avant de rentrer dans le métier, même un tout petit peu au début, oui, j'achetais, c'est-à-dire je cassais la tirelire deux fois par mois pour acheter des disques. Oui, j'allais dans ma ville natale, Épernay, chez le disquaire, il y en avait encore un à l'époque, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'en dans les années 80, il a disparu déjà. Et donc, il avait un rayon de disques qui était quand même assez considérable, enfin, qui était bien, quoi. Et on trouvait toutes les nouveautés pratiquement de EMI, de Deutsche Grammophon, enfin des grands labels. Après, je dois dire que le fait d'écouter de la musique toute la journée et d'écouter, c'est aussi pour ça que je ne réécoute pas les disques tout de suite après, parce que je veux avoir du plaisir à les réécouter, et je crains toujours d'être déçu, même si je les réécoute 6 mois ou 1 an après. Il me faut un temps de latence un peu plus important avant de reprendre le disque, de l'ouvrir, de le laisser le faner le mettre sur la, dans ma voiture ou dans, le, dans la chaîne du salon et de dire, ah oui, tiens, c'est, ah oui, c'est, ouais, quand même, c'est pas mal. Et, parce qu'on on garde toujours un souvenir un peu... C'est vrai que la, la post-production, c'est quand même parfois très... Surtout avec les moyens techniques qu'on avait depuis 15 ans, 20 ans, on arrivait pratiquement à construire un disque avec des gens qui... Voilà. C'est aussi un problème, c'est aussi un des problèmes du classique considérable, à mon avis, de, dans les 15 dernières années. Mmh. Alors, parce que quand les gens viennent au concert et qu'ils sont déçus, parce qu'ils ont écouté le disque avant, là, ça devient... ça m'est arrivé plusieurs fois, je ne citerai pas les noms, évidemment, mais ça arrivait quand même assez, de plus en plus souvent. Et on est un peu responsable, parce que moi, je suis totalement responsable de ça. Parce qu'on a, on s'est plié aux artistes qui étaient exigeants, qui voulaient des montages, des découpages, des découpages, des découpages. Et en fait, là aussi, on s'aperçoit que c'est peine perdue, parce que c'est, ça, ça détruit le discours musical.
Il y a trop d'effets spéciaux,
une certaine manière. Oui. Le fait de couper de mesure en mesure. Une fois, j'ai fait un enregistrement, il y avait trois montages dans la mesure, quoi. On est arrivé à 1000 montages dans le disque. Ça, c'est vraiment pas... Alors, c'est très beau. Non, mais c'est, franchement, ouais. C'est très beau. Et je réécoute avec plaisir. C'est un pianiste qui est tout à fait estimable. Mais ça devient de la folie. Là, ça devient... D'ailleurs, il
l'a reconnu lui-même.
Et d'ailleurs, j'ai cessé la collaboration tout de suite après ce disque parce que je ne pouvais plus. Je suis allé au bout de ce que je pouvais faire. J'ai failli le boxer trois fois pendant les séances de montage. Mais après, j'ai dit non. Ça, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, écoute, ça, je ne recommencerai pas ça. Voilà.
Est-ce qu'il y a des instruments vous pensez mieux capter, mieux dompter que d'autres? Est-ce que le piano, par exemple?
Bah, le piano, j'en ai fait énormément. Ouais. J'ai fait c'est quand même l'essentiel des choses que j'ai faites. D'abord parce qu'à la salle Wagram, c'était à l'époque des... dans les années 80, c'était une véritable usine d'enregistrement de piano. Hein. Il y avait Il y avait, les pianistes appelaient le lundi matin Jean Bussard, qui était le régisseur à l'époque, qui avait son bureau à la Salvagram. Et donc, lui disait, bah, écoutez, alors j'ai deux valses de Chopin, quand est-ce que je peux venir les enregistrer? On faisait les disques par petits bouts, quoi, en fait. Enfin, c'est pas par petits bouts, mais quand les gens étaient prêts à les jouer, voilà. On faisait pas des séances de 5 jours, comme on fait maintenant. Il y avait donc le Steinway sur place, il y avait l'accordeur Helmut Klemm qui était sur place, l'ingénieur du son était sur place, le directeur artistique était sur place, la cabine de montage était sur place. Donc ça se passait, c'était vraiment une maison où les gens, quand ils sentaient qu'ils devaient enregistrer, Ciccolini appelait en disant, bah voilà, je voudrais enregistrer telle pièce de Liszt, j'ai besoin d'une séance dans la semaine. Ah ben venez mercredi soir à 20h si ça vous va, très bien, voilà, ça se passait comme ça. Donc j'ai fait, effectivement, là, à la Salvagram, il y a eu beaucoup d'enregistrements de piano, puisqu'il y avait un piano sur place. Donc je pense que c'est d'abord par atavisme familial et par expérience, c'est l'instrument que j'aime le plus enregistrer.
Vous avez des lieux de prédilection pour enregistrer ou pas? Alors j'imagine que ça dépend évidemment si vous enregistrez un pianiste seul ou une phalange ou un orchestre ou une voix, mais est-ce que vous avez quand même des lieux où vous faites corps avec, au niveau sonore, avec l'espace, avec le lieu?
Ah, il y a des lieux qui sont magiques. La Philharmonie de Gienne, c'est quand même extraordinaire, quoi. Et ça sonne véritablement tout seul, quoi. C'est, dès qu'on sort un son, même si c'est un son un peu, voilà, c'est tout de suite de la musique.
Vous pensez à des enregistrements particuliers?
J'ai pas eu beaucoup d'expérience à Vienne. J'ai pu faire une fois ou deux, mais quelles autres salles encore? Là, il y avait, je me souviens, mais la salle de Grenoble est très belle aussi, la MC2. J'aime beaucoup y aller. Malheureusement, c'est pas très très facile d'y aller, sauf pendant les vacances scolaires. Mais j'ai fait des très beaux albums Brahms avec Nicolas Angelich, les trios de Schubert avec Capuçon et tout ça, on a fait là. Et je viens de faire un très beau disque aussi de piano avec Debussy et Quatre Mains, avec Philippe Cassard et François Chaplin pour Universal. Ça, c'est une très belle salle aussi, la Chaux-de-Fonds. Qui est magique. Bon, la Chaux-de-Fonds, le problème, c'est que moi, 4 jours dans cette ville, ça va, mais plus, c'est un peu difficile. Mais la salle est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Il y a d'ailleurs un deuxième endroit à la Chaux-de-Fonds, personne ne le sait, mais avant que la salle se construise, il y avait un temple dans lequel j'ai enregistré récemment les Miroirs de Jésus de Capelet avec l'ensemble vocal de Lausanne, là. Dans les rues en haut de la Chaux-de-Fonds, il y a un temple protestant qui sonne très très bien aussi, où Richter a enregistré avant que la... Non, c'est pas Richter, parce qu'il était pas... Non, c'est Schnabel, je crois, qui a enregistré là-haut, avant que la salle de musique soit construite. À Paris, on manque cruellement... maintenant, la salle Wagram, c'est plus possible pour des raisons financières, parce qu'ils sont très très gourmands. Ils travaillent avec les grandes maisons de couture, les défilés de mode, les émissions de télévision, etc. Donc c'est absolument des budgets qui sont impraticables pour des labels de disques. À Paris, on a quelques églises, mais il y a l'église du Liban dans laquelle j'ai fait pas mal de choses. On peut faire des choses, orchestre, tout ça. Il y a la salle Colonne qui vient d'ouvrir, qui est pour moi, à mon avis, l'endroit à Paris où... absolument. Nathalie Dessette a été ravie d'enregistrer là. Pianiste, j'ai fait du piano aussi. J'ai fait 2 ou 3 enregistrements de piano depuis l'ouverture. Voilà.
Est-ce que vous avez des enregistrements qui sont un peu des maîtres étalons, des albums? Alors évidemment, j'imagine que c'est lié à des intérêts artistiques et musicaux quand même avant tout, des albums ou des interprètes que vous chérissez. Mais est-ce qu'il y a des albums, enfin vraiment des disques en tant qu'albums, qui restent pour vous des sortes de écritures?
Il y en a des quantités, mais qu'est-ce que
quelques-uns au hasard, ça, qu'est-ce qui que viendra à l'esprit quand vous les écoutez, vous les mettez sur votre platine et vous...
Oui, non, il y en a des dizaines. Il y en a des dizaines. C'est très difficile de les classifier, vraiment. C'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile. Non, je peux pas. Non, parce que en fait, c'est quelque chose de tellement figé que. Alors, parfois, on a des coups de cœur. On met un disque pendant. Il m'arrive d'écouter un disque pendant pendant une période donnée parce que ça correspond à à beaucoup de choses du moment, à son humeur, à son truc. Puis après, on le remet un an après dans la platine, puis on se dit, oui, finalement, bon, voilà. Enfin, bon, tous les disques de Kempf, par exemple, c'est vrai que ça, c'est des choses que on peut pas vivre sans, quoi. Les quatre derniers leaders par Schwarzkopf, même si la voix est un peu datée aussi, l'interprétation un peu sucrée, etc., c'est quand même d'une beauté incroyable. Voilà, donc ça correspond à une interprétation de l'époque. Certes, alors beaucoup de gens peuvent discuter, ça date ou ça date pas. Bon, effectivement, ça date un peu, mais c'est quand même d'une telle beauté que je partirais sur une île déserte avec, hein, ça c'est sûr. Ouais.
Est-ce que le mélomane que vous êtes, soit par intérêt, j'allais dire professionnel, pour voir un peu ce qui se fait ailleurs, ou juste par intérêt musical, promène ses oreilles hors la sphère classique? Est-ce que, et même en termes d'enregistrement, est-ce qu'effectivement ce qui se fait, soit dans le jazz, la musique du monde, la pop ou autre,
vous intéresse pour... Oui, le jazz particulièrement, oui. Particulièrement le jazz, j'aime bien les nouvelles chanteuses, là, comme Diana Krall et tout ça, Terrasson aussi, j'aime beaucoup Terrasson, j'aime beaucoup cette nouvelle génération de jazz. Pour les musiques du monde, je n'ai pas tellement d'expérience, ni en rap, ni en... Enfin, j'écoute, il m'arrive de tomber sur des choses que j'aime beaucoup, mais... Non, à vrai dire, c'est une question peut-être de curiosité, mais surtout de temps, à mon avis, de manque de temps, d'aller, même si c'est facile maintenant d'aller sur Internet et de regarder un peu ce qui se passe. Non, à part le jazz, quoi.
Est-ce que la crise que l'industrie du disque vit, vous le ressentez, j'allais dire, de votre côté de la barrière, au niveau où, il y a quelques années, un ingénieur du son, un producteur pouvait débarquer avec... matériel en plus finir, ou maintenant on va plutôt lui dire, est-ce que vraiment c'est sûr qu'on a besoin de ça, ou est-ce qu'on a besoin de ça au niveau des restrictions budgétaires, etc.? Comment vous vivez
ça fait bien longtemps que, alors, les producteurs depuis 15 ans considèrent que le matériel ça ne doit pas rentrer en ligne de compte, il leur faut le meilleur, mais on fonctionne maintenant par forfait, donc forfait d'enregistrement par jour. Ça n'est plus, à part dans certains studios comme Abbey Road, qui arrivent encore à imposer des tarifs un peu progressifs en fonction du matériel utilisé. Nous, ça fait belle lurette qu'on a oublié tout ça. Ça fait belle lurette qu'on a oublié tout ça, parce que tout s'est miniaturisé aussi. Avant, quand on partait à Toulouse, dans les années 80, à la fin des années 80, on partait avec une grosse camionnette. Enfin, c'était quand même déjà un truc, un magnétophone Sony digital 3324, plus les micros, les perches, les machins. Maintenant, on va faire un enregistrement d'orchestre en Allemagne, on prend une Renault Espace et ça va, il reste de la place. Parce que c'est l'ordinateur directement, on multipiste directement sur l'ordinateur. Ce qui prend le plus de place et ce qui est le plus lourd, c'est les enceintes et les pieds. Après, convertisseurs, micro, tout ça, c'est quand même considérablement réduit. Donc la part de... Et les producteurs n'ont plus vraiment de... Enfin, les gens à qui je me rendais compte, moi, n'ont plus vraiment de conscience, à part quelques-uns, de ce qu'on utilise comme matériel, ni de la manière dont on fonctionne. c'est assez incroyable. Ils ne savent pas sur quoi on monte, sur quel logiciel. Je veux dire, alors, quelque part, ça nous arrange, parce qu'on n'a pas...
Vous êtes tranquille.
Oui, on est un peu tranquille, quoique après, il y a quand même des comptes à rendre. Mais le fait déjà que Amy se soit séparée de l'activité studio dans les années 90, début des années 90, c'était déjà un symptôme. Donc moi, j'ai essayé de maintenir autant que faire se pouvait le son maison, avec le matériel maison que Daniel Michel avait repris, et puis après enfin, en tout cas à Toulouse, puis après, pour des raisons pratiques, etc., j'ai commencé à travailler avec d'autres ingénieurs du son. Mais c'est pour ça que je ne multiplie pas trop les collaborations, parce que je sais, avec les gens que j'ai cités tout à l'heure, Michel Pierre, Frédéric et Briand et Jean-Marc Lainé, je sais qu'on va toujours au meilleur de ce qu'on peut capter sur le moment. Il y en a d'autres, hein, mais ils sont très bons aussi. Il y a des gens qui sont habitués à travailler tout seuls. Bon, je serais peut-être intéressé de travailler avec moi ou moi avec eux, mais je veux pas trop, multiplier les expériences.
Avec eux, est-ce qu'il y a des musiciens avec lesquels vous n'avez jamais eu la chance pour l'instant de collaborer et que vous affectionnez particulièrement et avec lesquels vous aimeriez vraiment travailler?
Ah, j'aurais aimé travailler avec Abbado, et ça c'est sûr. Ah oui, ça pour moi, Abbado, Ricardo Muti, des légendes comme ça vivantes de la direction d'orchestre, ça m'aurait vraiment fasciné. Pour le reste,
c'est encore possible.
Hein, oui, c'est encore possible, bien sûr. Bah, tout à fait. Je ne désespère pas. Mais des grands chefs de cette trempe-là, j'aurais bien voulu. Mais bon, j'ai été considérablement gâté quand même. J'ai eu beaucoup de belles expériences avec Georges Prêtre, avec des gens comme ça, avec Michel évidemment, et puis des chanteurs, des grands chanteurs aussi, Alania.
Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement ou vous allez travailler dans les semaines ou les mois qui viennent?
Là, j'ai donc fait un enregistrement qui paraîtra en mars, d'une œuvre sublime d'André Caplet, Miroir de Jésus, donc ensemble vocal de Lausanne. Donc ça va paraître en mars chez Mirare. À mon avis, ça va être la version de référence parce qu'il y avait une version d'il y a 15 ans, mais ça a été enregistré dans une acoustique trop sèche. Et c'est typiquement le genre d'œuvre qu'il faut enregistrer dans une acoustique parlante, quoi, une acoustique qui donne. Donc ça, c'était une grande expérience. C'était très, 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 très beau. Donc Nathalie Dessay, dont la parution est prévue en février. ça veut dire que, ben, ça veut dire que j'ai presque fini le montage. on a eu la chance d'enregistrer en deux périodes, en fait. Donc, il y avait un trou de 10 jours entre les deux périodes.
Sur quel répertoire ?
Mélodie de Debussy, avec quatre mélodies inédites qui ont été données à Philippe Cassard, qui accompagne donc Nathalie dans cet album qui va paraître chez Virgin. Quatre mélodies inédites, plus une mélodie avec harpe aussi, qui est très très rare. Donc il y a un très très joli programme, beaucoup de mélodies, et puis La Damoiselle élue en version piano, avec Karine Dehay aussi. Donc voilà, ça c'est la prochaine parution.
Et dans les enregistrements à venir
Là je suis en train de travailler sur un très très beau disque aussi avec un pianiste que j'aime beaucoup, que j'avais entendu il y a 4 ans, qui est extraordinaire, dans la 8e sonate de Prokofiev en concert, David Kadouche. Et là, on vient de faire un album, à l'instant, là, vraiment, on est dans les montages, un album de musique russe, avec les tableaux d'une exposition. Ça, il fait ça vraiment magnifiquement. La sonate Réminiscence de Metner et un prélude et fugue de Taneyev, Serge Taneyev, un compositeur que je connais très peu. C'est un très joli programme. Là, j'enregistre la semaine prochaine avec... ça, c'est une demande d'artiste. Alors, ça arrive de plus en plus souvent. Des artistes qui veulent s'autoproduire, c'est-à-dire qui ont un projet artistique et qui...
Bien précis en tête.
Bien précis en tête. Et je fais une version de quatuor et quintette à cordes des concertos de Chopin avec Hortense Cartier-Bresson. Voilà. Après, il y a un disque avec Nathalie Stutzmann, je sais, un disque Bach pour Deutsche Grammophon, au mois d'avril probablement, un disque avec David Frey, enfin voilà. Mais les choses se décident vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant au dernier moment. C'est un peu angoissant, parce que c'est quand même le fonctionnement de ce métier devient un tout petit peu anarchique. J'en ai discuté avec des patrons de labels que j'ai rencontrés cette semaine-là, et qui sont tous un peu inquiets quand même de la manière dont ça fonctionne, ou... Déjà au niveau des ventes, c'est très 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 fluctuant, quoi. Ça passe d'un extrême à l'autre en 15 jours, on ne sait pas pourquoi. Et donc la décision d'enregistrer ou de ne pas enregistrer se prend quasiment maintenant au dernier moment, quoi. Sauf quand c'est avec des orchestres où on est obligé d'avoir une vision à long terme et de réserver des salles bien avant. Mais il m'est arrivé d'avoir des demandes pour 15 jours après, quoi. C'est fou.
Dans cet emploi du temps bien chargé, quand il vous reste un peu de temps, vous jouez encore au piano de temps en temps chez vous ?
Oui, un petit peu. Oui, j'ai un peu de mal parce qu'on vieillit. Non, j'adore déchiffrer de la musique. J'ai une tonne de partitions dans une bibliothèque à côté et j'adore ça. J'adore ça, mais j'essaye de sortir. Je vais sur la plage, je vais jouer au tennis. J'essaye de me sortir un peu de la musique parce que La concentration que demande un... Je fais les montages moi-même. Hein. J'exige toujours de faire les montages moi-même parce que ça, j'ai expérimenté pendant 4 ans le fait de faire des directions artistiques, de faire un choix de plan de montage et de laisser le montage à un autre, etc. Et ça ne me convient pas. Ça me convient pas. Tant que moi, quand j'ai pas les mains dans le cambouis, on fait des choses totalement différentes, en fait. Donc le montage, c'est exigeant parce que c'est beaucoup de concentration. On peut jamais vraiment faire plus de 5 heures par jour parce que, enfin, c'est moi, je sais que c'est ma limite. Parce qu'après, on sait plus ce qu'on fait. On risque de faire des bêtises et etc. Donc ça me convient très bien, le fait d'être à la maison, de travailler le matin, vraiment une belle matinée de travail, de faire en début d'après-midi un peu d'administratif, de coup de fil, etc. Et puis le soir, éventuellement, avant le dîner, de reprendre une heure ou deux les choses, de réécouter ce qu'on a fait le matin et de... Parce que c'est ça aussi. Moi, je procède comme un escargot. Pour les montages d'un mouvement de concerto, par exemple, j'ai identifié, je note beaucoup pendant les enregistrements, des plus, des moins, des bonnes prises, des moins bonnes. Je note énormément. J'écoute au casque pendant l'enregistrement parce que je peux pas me concentrer. Sinon, si en plus souvent il y a du monde dans la cabine, donc il y a un peu de mouvement, donc ça me distrait. J'essaye d'avoir une écoute. extrêmement concentré. D'ailleurs, il y a un phénomène assez curieux, c'est que les artistes se sentent très très bien quand vous écoutez, quand vous n'écoutez pas. Et ça, je l'ai expérimenté des dizaines, pour pas dire des centaines de fois. Ils savent très bien si vous écoutez très attentivement ou si vous n'écoutez pas très attentivement. Et c'est extrêmement fatigant. C'est plus fatigant d'écouter que de jouer.
Donc ouais. La plage et le tennis sont essentiels.
Ouais, la plage et le tennis, oh, ça je pourrais pas vivre sans, c'est sûr.
Bah, Étienne Collard, merci. Merci. On vous laisse donc retourner à la plage et au tennis.
Gentil.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.